Vous écoutez CFM, émission spéciale législative. C'est aujourd'hui avec Boris Jiménez-Sastre, candidat lutte ouvrière sur la deuxième circonscription du Tarn. Bonjour, bonjour à tous. Émission spéciale élections législatives, scrutin des 10-17 mai 2012. Nous recevons tour à tour les candidats de la nouvelle deuxième circonscription du Tarn. Une émission co-animée avec Jean-Pierre de Testa. Bonjour Jean-Pierre.
Eh bien, bonjour Patrick.
Et nous recevons aujourd'hui Boris Jiménez-Sastre, candidat de lutte ouvrière. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 35 ans, vous êtes professeur des écoles en Haute-Garonne auprès d'élèves en difficulté, résidant à Toulouse, originaire de Cahuzac-sur-Vais. On commence avec les questions d'actualité. Jean-Pierre.
Oui, alors j'ai le sentiment, le fort sentiment que pour lutte ouvrière, les élections sont des pièges à cons. Cependant, ces périodes électorales vous permettent de présenter votre programme, vous vous réclamez du communisme, c'est-à-dire l'instauration d'une société sans classe, égalitaire, où tous les moyens seraient mis en commun, donc exit la propriété privée. Comment pensez-vous y arriver? Par quels moyens?
Alors, exit la propriété privée, surtout des grands moyens de production, parce que à l'heure actuelle, quand on regarde ce que font les grandes entreprises comme Total, comme Bolloré, c'est surtout générer des milliers et des milliers de chômeurs, et c'est surtout à ces gens-là qu'il faut s'en prendre. C'est une fois qu'on aura réglé ce problème-là qu'on pourra se poser la question de qu'est-ce qu'on produit, comment, et en fonction de quels besoins. Ce qu'on peut constater, c'est qu'à l'heure actuelle, la société tourne en fonction du profit de certains, de l'augmentation des dividendes des gros actionnaires, et absolument pas en fonction des besoins de la population, ni en ce qui concerne les services publics, le logement, et encore moins les salaires ou la réduction du chômage.
Quand on dit lutte ouvrière, j'allais dire il y a la légende et la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, Jean-Pierre en parlait, la suppression de la propriété privée, ça c'est quelque chose qui peut faire peur aux auditeurs qui nous écoutent. Vous nous avez dit que c'était surtout, donc on imagine, pas de suppression de propriété privée pour les gens qui ont leur petite maison, etc., mais plutôt pour les grands groupes. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui, du moins pour le grand public, font un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce grand public pour les rassurer?
Ben que pour le moment, ceux qui se chargent le plus de mettre les travailleurs sur la paille ou dans la rue, c'est quand même ceux qui font des plans de licenciement à gogo, ceux qui font que les salaires restent bloqués et sont en tout cas bien insuffisants pour vivre. Et c'est surtout ça la cause de la mise à la rue au moindre accident de la vie. Et rassurer les auditeurs, c'est surtout leur dire que tant qu'on s'en prendra pas à ces gens-là, aux décisions qui plongent toute la société et même à l'échelle plus vaste tout le monde, dans une situation de plus en plus horrible, eh ben oui, ils pourront continuer à craindre pour leur jour.
Je vais prendre un exemple précis. Les lois de Robien, la loi Cellier, ont fait florès, en particulier à Albi. Nombre de ces logements en location meublée, par exemple, ne sont pas loués, ou en location non meublée d'ailleurs, ne sont pas loués, alors que l'on manque cruellement de logements sociaux sur le Tarn.
On dit que ça repart, même.
On dit que ça repart, oui, on dit bien des choses. Hein,
ouais. Ça donc, dépend qui le dit aussi.
Que feriez-vous de ces logements locatifs inoccupés?
De toute façon, moi je suis pour la réquisition des logements vides. Parce qu'il y a un cruel besoin de logements, cruel besoin de la construction de logements sociaux, et par plusieurs dizaines de milliers. Alors la construction, ça prend du temps, mais déjà à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de logements vides, inoccupés, qu'on doit pouvoir réquisitionner. D'ailleurs, c'est des lois qui existent. Alors, elles ne sont pas appliquées, comme un certain nombre de lois, mais c'est une condition même nécessaire, c'est une condition vitale.
Oui, pour en revenir aux lois de Robien et Cellier, qui sont des niches fiscales, vous seriez pour la suppression des niches fiscales, bien évidemment.
De toutes les niches fiscales.
De toutes les niches fiscales.
Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait un impôt qui soit progressif en fonction de la fortune. Tout ce qui va être possibilité à certains possédants, et surtout, on le voit aux grands possédants, de payer moins d'impôts et de se mettre encore plus d'argent à l'abri, bien sûr, leur abolition pure et simple. Et la taxation en fonction des revenus. À l'heure actuelle, c'est surtout les classes populaires qui payent le plus d'impôts, notamment indirects, que ce soit à chaque fois qu'on fait le plein de sa voiture pour aller travailler, à chaque fois qu'on va acheter une baguette de pain ou son paquet de nouilles, c'est la TVA, même si des fois on nous l'appelle sociale. Enfin, c'est surtout une manière de nous crever encore plus le porte-monnaie.
C'est une prise d'argent sur l'impôt, sur de l'argent qui a déjà payé l'impôt, la TVA, c'est clair.
CCFM, émission spéciale élections législatives. Avec aujourd'hui Boris Jiménez-Sastre, candidat lutte ouvrière sur la deuxième circonscription du Tarn. On en arrive aux questions liées à la mise en place de cette nouvelle politique. On est en train de connaître un changement de paysage, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. Aussitôt après l'élection de François Hollande, lutte ouvrière a critiqué la formation du nouveau gouvernement au titre, je cite, « ronflant » et a affirmé qu'après le départ du président des riches, il ne fallait pas s'attendre à un Hollande président des pauvres. Pourquoi ?
Ben parce que les vrais responsables de la situation économique sont toujours en place. Les patrons du CAC 40 sont toujours là, n'ont pas changé avec l'élection. Leurs besoins économiques non plus sont toujours là et vont toujours dans le même sens. Et même si je vais pas pleurer le départ de Sarkozy, Hollande s'est engagé absolument à rien, il a bien choisi ses mots, à rien concernant sa campagne vis-à-vis de ces gens-là. Donc moi je crois que si on veut vraiment que la situation change, ben par contre il va falloir que les vrais responsables de la dette la payent, il va falloir que les classes populaires, il va falloir que nous tous, là, quand on travaille, eh ben, on puisse décider de comment on produit, comment.
Le Front de Gauche est pour une loi interdisant les licenciements dans certaines conditions. L'avis de lutte ouvrière sur cette question, la position lutte ouvrière.
Ben, tant mieux. Après, moi, je suis pour l'interdiction des licenciements tout court, pas quelles que soient les positions, parce que pas quelles que soient les conditions, parce que quand on regarde à chaque fois un plan de licenciement, s'aperçoit qu'il correspond à un choix, le choix de toujours faire plus de profits, plus de fric pour les actionnaires. Alors, les patrons des grandes entreprises peuvent payer des cabinets d'experts comptables pour bien des années à l'avance, préparer les comptes, organiser les filières, organiser tous les mouvements d'argent pour pouvoir prouver qu'à l'instant T, ah ben là, je suis désolé, faut qu'on se sépare de Aulnay ou de n'importe quel autre grand groupe, alors que c'est des situations qui sont planifiées, organisées. Aucun licenciement n'est justifié. Et si on répartissait justement le travail entre tous, on pourrait voir que toute la vie économique reprendrait aussi.
Je vais reprendre un argument d'économiste que vous allez certainement juger basique. Comment on fait pour attirer des capitaux en France si on leur interdit de licencier, de gérer leur capital ?
Eh bien, Total, qui est quand même une entreprise bien française, première entreprise du CAC 40 avec des dizaines de milliards d'euros tous les ans de profit, a complètement les moyens financiers d'assurer non seulement des salaires décents, pas les salaires actuels, mais vraiment des salaires décents et indexés sur l'augmentation des prix à tous ses employés et aussi à embaucher massivement. Et je pense à toutes les petites et moyennes entreprises qui sont bien souvent à des degrés divers des sous-traitants de ces grands groupes. Se retrouve à bénéficier par là même des mêmes conditions.
Une question de Jean-Pierre par rapport à la République exemplaire.
Oui, c'est un terme qu'on a déjà entendu dans le passé, hein, par le précédent président, avec le succès que l'on connaît. Voilà, que pensez-vous d'un patron tel celui d'Air France qui touche une prime de 400 000 euros alors qu'il a conduit son groupe à un déficit de 900 millions d'euros? Que pensez-vous d'un député, comme le député Terrasse, président du Conseil général de l'Ardèche, lui et d'autres, hein, d'ailleurs, ce n'est pas spécifique au député Terrasse PS, il s'est fait prendre les doigts dans la confiture avec une dépense de 15 000 euros pour financer des voyages privés, des vacances en famille, ceci grâce à l'IRFM, qui est supposé pallié aux frais financiers, 6412 euros. Que pensez-vous de ces déviances, de ces scandales ?
Ben moi, je crois que ces gens-là sont des crapules. Parce que, au-delà de leur enrichissement personnel, c'est surtout des gens qui sont responsables de ou la fermeture de certaines entreprises et ou alors de l'aide directe au patronat. Je pense notamment à toutes les entreprises qui vont recevoir des crédits impôts recherche, qui vont recevoir des exonérations en veux-tu, en voilà. Et ben voilà, c'est ces gens-là qui prennent ces décisions, c'est ces gens-là qui laissent faire des plans de licenciement, c'est ces gens-là qui montrent par leur comportement qu'ils sont les valets serviles du grand patronat. Ouais.
Un petit peu de politique internationale, même si ça n'est pas le rôle premier de ce scrutin ou la responsabilité des députés. Les médias nationaux nous donnent l'impression d'une nouvelle bonne entente entre Hollande et les représentants d'autres pays à l'international. On a tous en tête les images de la première rencontre de François Hollande avec Angela Merkel, qui sont pas sur la même ligne par rapport à cette politique de relance à mettre en place pour François Hollande. Ceci dit, ils avaient l'air plutôt détendus et puis... du coup, par contre, là, ils sont un peu sur la même ligne avec Barack Obama. Ça blaguait assez facilement. Est-ce qu'on entre dans une autre ère de la politique internationale de la France ?
Ben moi, je crois que si justement ils sont si détendus les uns avec les autres, c'est parce qu'ils représentent les mêmes intérêts politiques et qu'au-delà de leurs étiquettes de parti, ils savent très bien qu'ils sont entre eux représentants du grand patronat. Et je crois que le grand patronat allemand, maintenant, a absolument aucune illusion sur Hollande et sait que les affaires vont continuer. Et de même pour les autres pays. C'est surtout ça le problème. Le style qu'ils vont afficher dans les réunions internationales où sont conviés la presse, bon, il est ce qu'il est. Mais moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'ils sont tout à fait d'accord pour faire payer la crise aux travailleurs. La relance, ça n'est qu'un mot creux. Pour le moment, il n'y a eu aucune augmentation des salaires significative, il n'y a eu aucune embauche massive.
Avec quel argent, il vous dirait ?
Ben avec quel argent ? Avec l'argent qu'on produit à chaque fois qu'on se lève le matin pour aller travailler. Jusqu'à présent, toutes les richesses sont construites par notre travail, sont faites par notre travail. Et toute la crise là, dont ils nous rabattent les oreilles, la crise de la dette... c'est pas pour construire des hôpitaux que la dette s'est aggravée, ça n'a pas été pour construire des écoles. Et là, justement, toutes les petites communes du Tarn peuvent s'en rendre compte. Le nombre qui se battent, notamment à Cahuzac-sur-Vert, pour préserver une classe à un endroit ou un service hospitalier comme à Albi, ils sont bien conscients que c'est pas pour faire ce genre de choses que la dette s'est approfondie.
Écoutez CFM, émission spéciale législative. Avec aujourd'hui Boris Jiménez-Sastre, candidat à lutte ouvrière sur la deuxième circonscription du Tarn. On va quitter un peu les hautes sphères et parler un petit peu plus de local, puisque c'est avant tout pour notre quotidien qu'on vote, pour qu'il change, on l'espère, demain. On va commencer justement par l'école, ça tombe bien, je rappelle que vous êtes professeur en Haute-Garonne auprès d'élèves en difficulté, donc la suppression des RASED, c'est quelque chose qui, j'imagine, vous a révolté. Là, Jean-Pierre a une question à vous poser.
Oui, vous êtes effectivement professeur des écoles, comme votre suppléant qui est à la retraite, Michel Etienne. Alors je vais vous parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. En ce temps-là, les dignes héritiers des hussards, les instituteurs des hussards de la République, les instituteurs portaient la blouse grise comme leurs élèves. Au tableau noir, il y a une phrase traitée de morale sociale. Et à la fin du cycle primaire, les élèves, dans leur grande majorité, savaient lire, écrire et compter. En 2012, plus d'un élève sur cinq est en grande difficulté scolaire, particulièrement à l'écrit. Pourquoi et que faire ?
On demande de plus en plus de choses à l'école, de pallier à de plus en plus de dégradation dans la société. On lui rajoute des missions, très bien, mais en lui enlevant aussi de plus en plus les moyens de le faire. Et ça date pas d'hier. Moi, j'ai souvenir d'un ministre qui parlait de dégraisser le mammouth. Bon, là, ça va, on racle l'os. La suppression de postes à gogo, l'accroissement du nombre d'élèves par classe, les diminutions des conditions matérielles, du taux d'encadrement, même dans le secondaire, le nombre d'adultes par rapport aux enfants, tout ça, ça a des conséquences, oui. Et les perspectives de la société qui s'enfonce de plus en plus dans la misère, et l'école, c'est pareil.
Qu'est-ce que vous diriez à toute cette tranche de la population française qui... vont à fond dans le mythe du fonctionnariat où on fait pas grand chose finalement, c'est en dehors de on n'est pas dans la productivité, donc finalement ça a pas vraiment de valeur, j'allais dire, enfin bref, toute l'image qu'on colle aux professeurs des écoles, aux fonctionnaires en général.
Moi, je crois que ces images, et puis on peut en citer bien d'autres, c'est surtout une manière de monter les travailleurs les uns contre les autres, parce que là vous parlez de certains préjugés concernant les fonctionnaires. Il y en a un certain nombre qui traînent aussi vis-à-vis des travailleurs qui auraient des papiers ou non, qui seraient bénéficiaires d'un CDI par rapport à ceux qui n'ont qu'un CDD. Je crois qu'à chaque fois, c'est des armes qui se retournent contre nous, surtout, parce que ça voudrait faire croire que nos intérêts sont divergents. Ben, moi, je crois que les salariés, qu'ils soient du public, du privé, subissent tous les mêmes, la même pression, la même dégradation de leurs conditions de travail, qui a des conséquences sur la dégradation de toute la société, et que moi je crois surtout qu'on doit être unis à travers ça pour s'attaquer aux vrais responsables de cette situation, les banques, les marchés financiers et les grands capitalistes qui sont à la tête de ces groupes-là, parce qu'on ne peut pas en même temps vouloir rembourser le racket qu'est la dette et vouloir des services publics de qualité, un enseignement performant, des postes dans toutes les communes, un réseau de trains qui permet aux plus démunis de pouvoir se déplacer même sans voiture. Bon, ben, y a des choix à faire, tous les intérêts sont pas conciliables. Et ben, moi, je suis justement pour défendre les choix de la population, du monde du travail, de tous ceux qui font tourner cette société contre les parasites qui ne vivent que de leur racket sur l'ensemble de la société.
Grosse réforme de la santé, on l'a vu, hein, il y a eu pas mal de conséquences sur cette deuxième circonscription du Tarn avec la fermeture des urgences à Carmo, avec le rapprochement des hôpitaux de Gaillac et d'Albi. On manque toujours de médecins en campagne. Là, c'est quoi l'idée de lutte ouvrière?
Ben, ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est que si on veut pouvoir embaucher des médecins, si on veut pouvoir créer des hôpitaux, il va falloir trouver de l'argent. Bon, quand on regarde les bénéfices des entreprises du CAC 40, c'est 73 milliards d'euros, ce qui correspond à peu près à 220 hôpitaux de taille importante. Bon, voilà, si on veut pouvoir développer tous ces services de qualité, des services utiles à l'ensemble de la population, ben, l'argent va falloir le prendre là où il est. On peut pas, comme je le disais, vouloir en même temps rembourser la dette et en même temps faire tous ces travaux d'envergure. Bon, ben, on voit depuis des années, et pas simplement sous le gouvernement actuel, hein, il y a eu énormément de privatisations, notamment la Poste, qui ont commencé avec des gouvernements de gauche. La logique en ce moment, ben, c'est de toujours vouloir donner aux mêmes grands patrons, aux mêmes grands actionnaires. Bon, ben, c'est à ça qu'il faut s'affronter.
On a bien compris que le message, c'est de l'argent, il y en a, allons le chercher, quoi.
Oui.
Jean-Pierre.
Oui, ben, on parlait de prédateurs. On va revenir sur le terrain Tarnais et Midi-Pyrénées. Nos agriculteurs sont victimes de prédateurs que sont les grandes surfaces et les industriels de l'alimentation, par exemple Danone et Lactalis pour le lait. 50% des exploitations rurales ont disparu en 25 ans. Autre exemple, exemple industriel. Les augmentations d'importation de pavés en granit chinois ont augmenté de 300% en 5 ans et 3500 employés sont menacés dans le site d'Obre. Comment revaloriser l'emploi en milieu rural et dans nos entreprises qui sont menacées par la mondialisation?
Moi, je crois que nos emplois, nos conditions de vie ne sont pas menacées par la mondialisation, ils sont menacés par le capitalisme. Parce que les échanges entre pays, ça remonte même bien avant le Moyen-Âge. Donc je crois que c'est vouloir remonter des frontières hermétiques ou nier ça, c'est marcher sur la tête. Par contre, ce qui crée le chômage, c'est cette organisation de la société. Et moi, je crois que si c'est la population, si c'est les travailleurs, si on pouvait contrôler les comptes des entreprises, ben là, on serait capable de faire plein de choix. On serait capable d'interdire les licenciements, on serait capable de partager le travail entre tous, d'avoir des augmentations de salaire. Si ça veut dire que on travaille moins, ben tant mieux. Si les échanges font qu'on a une production et une organisation des transferts de marchandises beaucoup plus rationnels, tant mieux. Mais surtout, ça veut dire que on devient capable de faire ces choix-là.
Qu'est-ce qui, dans cette organisation, peut empêcher une collectivité, une entreprise ou même un particulier d'aller acheter quelque chose moins cher ailleurs que par rapport à quelque chose de plus cher ici?
Oui, je souligne ta question, Patrick. Si les augmentations ont augmenté, les augmentations de pavés chinois ont augmenté 300%, c'est que le pavé chinois revient 30 à 40% moins cher que le granit du Cidobre.
Il faut taxer les importations?
Moi, je crois surtout qu'il faut s'en prendre au capital, tout court. Bon, parce que là, vous me parlez d'économie fait en choisissant un certain type de granit plutôt qu'un autre. Sauf que ces économies-là réalisées, Elles n'ont pas été à la création d'emplois, elles n'ont pas été à l'augmentation des salaires des gens qui travaillent dans ce secteur d'activité.
Donc ça n'est pas une économie.
Donc c'est présenté comme une économie de la part des patrons, mais c'est justement un argument de grands patrons.
Oui, il s'agit de collectivités, là, avec votre permission. Il s'agit de collectivités comme Albi, comme Bordeaux, etc., qui achètent des pavés pour les places publiques et qui achètent des pavés chinois.
Et les mêmes collectivités qui ont vu leur budget de fonctionnement fondre dramatiquement, qui ont vu la suppression de la taxe professionnelle, bon, qui sont aussi, elles, en train d'essayer de jongler avec la situation économique qui se dégrade. On peut parler aussi des collectivités qui ont été littéralement arnaquées par la banque Dexia. Bon, ce genre d'argument, qu'ils soient employés par une collectivité ou par des grands groupes, parce qu'elles n'ont pas le privilège de parler d'économie et de rationalisation de la production, on en revient toujours aux mêmes choses. Les collectivités qui font des économies, c'est rarement pour faire des logements publics dans les grandes, dans les proportions qu'il faudrait. Même si certains peuvent en avoir envie. Enfin, leur mission augmente, que ce soit l'entretien des routes départementales, que ce soit la construction de logements en partenariat avec la région. Le nombre de leurs missions, même au travers des aides aux personnes en difficulté, augmente et leurs moyens de faire face à ces missions-là diminuent. Donc, c'est la quadrature du cercle aussi.
Mais le particulier, lui, il a le choix entre un agneau qui vient du Ségala, on va dire, qui est à un prix, un certain prix, et un agneau de Nouvelle-Zélande qui est moins cher malgré les kilomètres.
Ben moi, je crois que le particulier, il a surtout pas le choix des fins de mois qui commencent le 15.
Vous écoutez CFM, émission spéciale élections législatives. Avec aujourd'hui Boris Jiménez-Sastre, candidat lutte ouvrière sur la deuxième circonscription du Tarn. La dernière partie est plus libre. Vous avez l'habitude, vous êtes déjà venu dans le cadre des élections présidentielles. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en avant. C'est free.
D'accord. Ben moi, je pense que dans cette situation, l'interdiction des licenciements, c'est une mesure vitale. Pas des licenciements seulement boursiers ou spéculatifs, des licenciements tout court. La répartition du travail entre tous les bras disponibles et l'indexation des salaires sur les prix augmentent, il est naturel que les salaires doivent suivre. Et Lutte ouvrière se présente dans toutes les circonscriptions, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, justement pour pouvoir défendre cette idée-là, et pour ne pas laisser le monopole de critique du gouvernement de gauche à la droite et à l'extrême droite, qui, on a vu, sont très virulentes en ce moment, et vont l'être d'autant plus qu'ils vont essayer de faire oublier le bilan calamiteux des 5 dernières années. Eh bien, moi je crois qu'on doit devoir proposer une alternative aux travailleurs, en leur disant clairement que c'est pas par les élections législatives que ça va changer cette histoire-là. Pas plus les élections législatives que les présidentielles n'ont changé les rapports de force économiques. Eh bien, si on veut que ça change, ce sera par les luttes, et lutte ouvrière au sein de ces élections, comme au sein des présidentielles, à travers le programme de Nathalie Arthaud, ben nous on défend un programme de lutte, un plan de bataille, des mesures vitales qu'il faudra imposer. Et je dis bien imposer, qu'aucun gentil gouvernement, qu'aucune assemblée, fût-elle de gauche, ne prendra. Et seuls les travailleurs organisés, en utilisant leur force, qui est de tout produire dans cette société, pourra imposer.
Jean-Pierre ?
Oui, en conclusion, si je comprends bien, vous demandez aux électeurs de voter pour vous, mais ce n'est pas l'essentiel, vous leur demandez surtout de vous rejoindre.
Ben, voter pour nous, c'est affirmer qu'on n'est pas dupe de ce gouvernement qui est en train de passer ses premiers jours, qu'on ne leur fait absolument aucune confiance, et voter pour nous, c'est voter pour des idées, dire qu'on est d'accord avec ces idées. Là, un certain nombre de personnes ont manifesté une certaine sympathie à travers toutes les activités qu'on peut faire, puisque nous, on est parti de militants, et on milite sur le terrain, en dehors des élections même. Donc un certain nombre de personnes manifestaient de la sympathie pour nos idées, mais voulait voter Hollande pour se débarrasser de Nicolas Sarkozy, voilà, ça c'est fait. Ben, moi je leur dis maintenant que le vote lutte ouvrière au sein de ces élections, ça peut être une façon de défendre ces idées, donner un avertissement au gouvernement Hollande pour que les travailleurs, une fois de plus, soient pas les dindons de la farce de ce jeu électoral.
C'était Boris Jiménez-Sastre pour Lutte ouvrière, candidat sur la deuxième circonscription du Tarn, scrutin des 10 et 17 juin prochains. Merci, à bientôt.
Merci.